Je vais maintenant vous présenter Monsieur Stéphane Tison de l'Université du Maine au Mans, maître de conférence d'histoire contemporaine. Vous êtes aussi, Monsieur Tison, membre du Centre de recherche historique de l'Ouest. Et ce sera évidemment passionnant de vous entendre, car vos recherches portent notamment ou principalement sur les conséquences des conflits et l'interface guerre-paix au cours de la période 1870-1940. Vous avez notamment cherché à appréhender, à comprendre l'influence d'un traumatisme de guerre sur les individus, mais aussi sur les groupes sociaux et dans les représentations culturelles des sociétés. Vous allez aujourd'hui, votre communication portera sur une institution qui n'était pas très connue, le Bureau européen, basé à Paris, de la dotation Carnegie pour la paix internationale, et vous allez nous traiter des questions humanitaires vues par ce bureau. Je vous donne la parole.
Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais remercier Valérie, Irène, Roger pour leur invitation et leur accueil vraiment généreux et formidable. La Fondation Ador également. Voilà, merci beaucoup à vous. Je suis vraiment très heureux de me retrouver à nouveau après le précédent colloque devant vous pour évoquer cette dotation de Carnegie pour la paix. Le médaillon que vous avez ici date de 1924, mais d'une certaine manière, mais en fait déjà cette fondation qui détruit l'horreur éventuellement de la guerre pour protéger. On va voir que c'est sans doute une évocation plus tardive, puisque pendant la guerre, cette dotation Carnegie va avoir énormément de mal à penser justement la façon de venir en aide aux victimes, notamment aux victimes civiles de la guerre. Alors, j'en reviens pour commencer d'abord à quelques éléments pour expliquer ce qu'est cette dotation. C'est d'une certaine manière à la fois un des premiers think tanks sur l'organisation de la paix et ce qu'on pourrait appeler également une organisation non gouvernementale dont l'objectif défini à partir de sa fondation en 1910 est la mise en place de règles de droit international dans le but d'établir une paix durable reconnue au niveau mondial. Donc c'est le philanthrope et magnat de l'acier Andrew Carnegie qui l'a donc créé en 1910. Cette fondation a une structure très originale puisque elle est fondée sur un réseau véritablement transnational, transatlantique, autour de trois divisions qui sont présentées ici, des relations internationales, d'économie et d'histoire, de droit international. Ces divisions réunissent donc des experts internationaux, des juristes, des universitaires, des diplomates, qui, d'une certaine manière, contribuent à redéfinir ce que doivent être, ce que devraient être les relations internationales. Le but étant d'encourager le développement d'un droit humanitaire. Et l'idée notamment de l'arbitrage international, du développement de la paix par le droit, du dialogue essentiel entre les peuples pour prévenir les conflits. Et le bureau européen dont je vais parler est rattaché à une de ces divisions. Et donc je vais notamment évoquer assez largement les relations entre leurs deux présidents, Nicolas Murray Butler, qui est le président de Columbia University depuis 1904, qui sera prix Nobel de la paix en 1931, et Paul Destournel de Constant, sénateur de la Sarthe, prix Nobel de la paix 1909, qui est, à partir de 1911, le président du Bureau européen, représentant en Europe, finalement, cette dotation Carnegie. Le bureau européen, le voici. Vous allez voir, c'est un tout petit nombre de personnes, une douzaine de personnes seulement, dirigées donc par Paul Destournel, avec Jules Prud'homo, qui est un historien qui en est le secrétaire général, Jules Buèche, secrétaire adjoint, qui est un des grands pacifistes de l'époque, Justin Godard, qui est la figure peut-être à côté de Destournel la plus important du moment puisqu'il est député du Rhône, maire adjoint de Lyon, vice-président de l'Assemblée nationale, et puis un certain nombre également d'autres personnalités plus ou moins importantes, mais des secrétaires également, mais c'est voilà un tout petit personnel. La guerre intervenant, beaucoup d'entre eux vont quitter le bureau puisqu'ils sont mobilisés, et la particularité du bureau européen, c'est qu'il est finalement un peu mis en sommeil pendant le conflit ne vont vraiment jouer un rôle essentiel que d'Estournel, l'épouse de Jules Puech, qui va prendre sa place et organiser une grande partie de l'activité du bureau. On retrouve évidemment des correspondances de Jules Prudhomo ou de Jules Puech, mais qui sont évidemment moins actifs puisque mobilisés. Quant à Justin Godart, on en a parlé, lui va jouer un rôle extrêmement important, bien entendu, mais en dehors du bureau européen, il n'y participe plus. Alors, les sources que je vais utiliser, que j'ai utilisées pour évoquer ces points, c'est notamment la correspondance entre d'Estournel et Butler, qui est conservé à la fois en France, donc dans la Sarthe, et à la bibliothèque de l'Université Columbia, mais également on peut disposer depuis un an de la correspondance entre Jules et Marie-Louise Puech, hein, qui permet évidemment de saisir un peu mieux comment de l'intérieur fonctionnait le bureau européen. Alors, ce bureau, comment ces individus ont-ils cherché à penser hein, véritablement cette question humanitaire? Nous allons voir qu'elle est abordée sous deux points. D'abord, le regard est porté sur les exactions, notamment envers les civils, mais également sur l'aide. Et vous allez voir que le premier aspect va largement l'emporter sur le second. Les exactions, en effet, contre les civils ont particulièrement marqué et choqué l'ensemble des membres du bureau européen. Et d'Estournel est véritablement stupéfié par la violence radicale de l'affrontement et il va chercher à en définir les caractéristiques. Dans sa lettre numéro 19 du 22 décembre 1914, il dit ceci, je cite, « Ce qui se passe en 1914-1915 n'est comparable à rien. Les survivants de la guerre de 1870-71 sont unanimes sur ce point. La guerre actuelle est mille fois pire que nous n'avons pu l'imaginer. » Et d'une certaine manière, il va, dans les premières années du conflit, inventorier, d'une certaine manière, l'ensemble des exactions qui sont commises envers les civils. Quelles atteintes donc sont donc dénoncées? D'abord, l'inscription de force des civils dans la bataille. Il évoque le sort des habitants de Senlis pendant la bataille de la Marne, l'utilisation d'otages par l'armée allemande sur le champ de bataille, les exactions vers les femmes, les jeunes filles. Je vous cite un exemple dans sa correspondance, retiré de témoignages qu'il prend auprès de réfugiés belges venus jusque dans le département de la Sarthe. Je cite « Nous avons des Belges par milliers à loger avec nos blessés, sans compter l'armée anglaise, nombreuse au Mans. Les détails que j'entends invariablement les mêmes sur les violations du droit des gens commises par les Allemands dépassent les limites de l'invraisemblable. On a vu des officiers allemands donner l'ordre et l'exemple d'achever les blessés, mettre le feu à la paille sur laquelle on les avait entassés et les brûler vivants. Cela constamment, des villages, des villes sans défense comme Louvain sont bombardés et incendiés. Les Allemands, pour avancer impunément, prennent sur leur passage les jeunes filles, les femmes, les enfants et les poussent devant eux comme des boucliers. » Il évoque ainsi pendant toute sa correspondance civils pris pour cible également en dehors du champ de bataille. Bien entendu, je ne peux pas lire tous les extraits, mais il évoque bien abondamment le torpillage du Lusitania. Il évoque aussi, et ça le frappe énormément, la destruction des lieux de vie et adresse énormément de documents à Butler, des photographies bien entendu de la cathédrale de Reims, mais également des destructions qui sont commises dans les villages. C'est le cas lors de la bataille de la Marne. Donc des cartes postales, tous les documents qu'il peut réunir sont adressés, envoyés à la dotation à New York. Il est vraiment particulièrement marqué par la destruction de ces lieux de vie en évoquant dans de très longues pages des descriptions longues, des ruines, notamment après le retrait stratégique allemand dans le département de l'Aisne au printemps 1917, où il va se rendre compte sur place de toutes ces destructions et donc renvoie ces informations vers la dotation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces exactions, ces destructions, elles sont lues à l'aune des guerres balkaniques. clairement, d'Estournel associe ces faits aux observations qui ont été effectuées pendant les guerres balkaniques. Je vous cite un extrait du 3 septembre 1914. « Tout ce que nous avons dénoncé d'atrocités commises dans les Balkans se répète maintenant au cœur de l'Europe. Les Turcs, à leur tour, vont prendre leur revanche et mettre de nouveau à sang non plus seulement les Balkans, mais la Turquie d'Asie. C'est la barbarie triomphante. Mais ce triomphe ne sera que momentané. Je n'entends personne différer sur la conclusion de ce drame épouvantable, les États-Unis d'Europe avec le désarmement, ou tout au moins les armements limités à ceux d'une force collective de police. » Je reviendrai sur ce dernier point tout à l'heure. Clairement, pour lui, le conflit est une conséquence, une succession des guerres balkaniques, et sans même que l'entrée en guerre fasse réellement rupture. Il écrit à Butler le 2 novembre, « Trouvez-vous qu'il y a une grande différence entre ces infamies et celles que nous avons voulu flétrir en publiant, il y a quelques mois seulement, notre enquête sur les atrocités des deux guerres balkaniques ?» En effet, au moment où la guerre intervient, le bureau européen donc de Paris est en train de mettre les dernières relectures, effectue les dernières relectures du rapport que sa commission envoyée dans les Balkans en 1912-13 a rédigé. Et donc, il y a une espèce de parallèle immédiat qui est effectué entre les observations effectuées en 1912 et 1913 et ce qui est en train de se passer sur le front occidental, notamment. Donc ça, c'est un aspect véritablement important. Et de ce fait, clairement, ce que fait d'Estournel, c'est inventorier toutes les violations des conventions de La Haye et de Genève, qu'il va synthétiser d'ailleurs, ici dans un courrier de mai 1915, dans la lettre numéro 40 adressée à Butler. On ne va pas tout lire, mais vous voyez le sens. Il reprend point par point. Est-il vrai que les belligérants se sont interdits mutuellement le droit de recourir à des moyens illimités de nuire à l'ennemi ? Articles 22, 23, 24, 25 et 28 du règlement annexé à la Convention 1907. Notamment le droit de tuer ou de blesser un ennemi sans défense, de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier, de détruire ou de saisir les propriétés ennemies, d'attaquer ou de bombarder par quelque moyen que ce soit des villes ou localités, même prises d'assaut. Et évidemment, il reprend chacun des articles qui a pu être violé. Et pour lui, comme il l'explique d'ailleurs dans une de ses lettres, c'est une preuve par l'absurde de la nécessité d'appliquer justement et de la nécessité de créer un droit international et de normer l'activité guerrière pour en limiter les effets. C'est véritablement sur ce point-là qu'il évoque les choses. Et dès juillet 1916, en faisant cette énumération, il appelle à la création d'un tribunal de justice pour juger les responsables de la guerre, en premier lieu Guillaume II et le militarisme prussien, en faisant clairement une distinction entre les responsables à la tête du gouvernement et le peuple allemand, qu'il considère d'une certaine manière comme une victime du gouvernement prussien lui-même. Alors, clairement, vous le voyez bien, c'est un aspect que j'ai voulu montrer, cet inventaire des exactions contre les civils, clairement, le bureau européen va l'instrumentaliser dans le but de faire entrer les États-Unis en guerre, d'informer les élites américaines pour que ces élites, à terme, quittent leur neutralité et viennent imposer une nouvelle lecture du droit international. Le but n'est pas de faire entrer les États-Unis pour accroître les forces qui combattent l'Allemagne, mais clairement de hâter la fin du conflit pour mettre en œuvre très clairement ce droit international pensé avant-guerre. Et d'une certaine manière, d'Estournel, comme les membres du bureau européen, vont reprendre la logique de l'enquête sur le même modèle que ce qui a été réalisé pendant le conflit balkanique, pendant les guerres balkaniques de 1912 et 1913. Je vous cite un projet qui est évoqué dès le mois de novembre 1914. Reste à savoir si, étant donné l'immensité du champ de bataille ouvert depuis l'Europe jusqu'à l'océan Pacifique, on pourrait se borner à charger une commission de visiter simplement les territoires franco-belges avec le mandat d'établir dans quelle mesure le droit des gens et les conventions de la haie ont été violées. C'est sur ce point bien circonscrit que j'appelle votre attention. Il est difficile aux États neutres de rester spectateurs impassibles de ces violations qui les menacent au plus haut degré et de ne pas chercher à faire la lumière sur cette question d'un intérêt universel. Pour autant, à New York, la dotation ne rentrera pas dans cette logique et ne veut pas rentrer dans la logique de faire une enquête identique à ce qui s'est passé dans les Balkans. Qu'à cela ne tienne, Destournel lui-même et les membres de son bureau vont eux-mêmes sur place enquêter. Vous voyez ici les multiples déplacements du sénateur sur le front. Il fait à chaque fois de véritables rapports qu'il adresse à Butler. Certains sont traduits en anglais et diffusés auprès des responsables de la dotation. Marie-Louise Pech fait exactement la même chose. Le but, clairement, c'est d'informer les trustees, donc les responsables de la dotation Carnegie. Certaines lettres vont être, par Butler, traduites et diffusées à de nombreuses reprises dans The New York Times, et donc ont une diffusion, notamment ici, les articles évoqués en mai 1915, mais ceux de septembre 1914, sont diffusés à 300 000 exemplaires. Véritablement, donc, ils peuvent avoir une influence. Destournel envoie également, vous voyez, de nombreux documents. Marie-Louise Puech fait exactement la même chose sur les destructions urbaines, sur la sauvegarde qui est faite envers les enfants, notamment envers les civils, d'une façon extrêmement importante. On a également un certain nombre de démarches spécifiques qui sont faites par Marie-Louise Puech, mais également par Paul Destournel de Constant, pour visiter les camps de prisonniers, et notamment, alors, dans un but clairement aussi patriotique, il s'agit de montrer que la France respecte les conventions de la haie. Et donc c'est dans ce sens-là que Destournel, comme Marie-Louise Puech, vont visiter des camps de prisonniers et renvoient des informations. Alors, je termine sur un dernier point. Est-ce que cela signifie pour autant que le bureau va prendre clairement en compte les questions humanitaires? En réalité, il y a bien des aides qui sont organisées, mais ces aides restent extrêmement ponctuelles. Destournel va ouvrir un hôpital auxiliaire dans sa demeure, avec 80 lits. Marie-Louise Puech va également, créer des correspondances, elle a 75 correspondances avec des familles, des soldats, et elle cherche clairement à les mettre en relation les uns avec les autres. Elle évoque à plusieurs reprises ces éléments-là. Elle cherche également à visiter beaucoup d'hôpitaux. Elle essaie de mettre en relation ou en réseau des associations. Je vous cite juste un court extrait de sa correspondance à la date du 15 septembre 1915, où elle évoque justement le rôle de Prud'homo, dont je parlais. Prud'homo s'occupe d'un projet dont le gouvernement allemand a donné l'idée, une sorte d'agence gouvernementale qui donnerait dans chaque pays des renseignements sur les prisonniers malades et sur les morts, sur leur succession. Il aurait, pour son rapport, besoin de renseignements sur toutes les sociétés existantes qui s'occupent de prisonniers, et nos fiches de journaux dépouillées par Mademoiselle Hamelot, une autre secrétaire, et moi, vont servir. C'est une excellente idée qui aurait déjà dû être réalisée, et naturellement cette idée a été suggérée par l'Allemagne, qui a pourtant bien moins de prisonniers en France que nous n'en avons en Allemagne. Donc elle œuvre de cette manière-là, mais ces aides-là, clairement, restent éminemment portées par uniquement des individus. Le bureau européen lui-même ne va pas susciter ou organiser lui-même une aide humanitaire de façon systématique pour les familles ou pour les prisonniers de guerre. La dotation Carnegie elle-même, d'ailleurs, ne le fait pas. L'un des membres de la dotation, un professeur allemand, qui est Theodor Schliemann, professeur d'histoire à l'université de Berlin, propose en 1915 que la dotation aille visiter les camps de prisonniers, et clairement, il reçoit une fin de non-recevoir. Ce n'est pas suivi par la dotation qui cherche à rester clairement dans une neutralité complète. Il faut attendre 1916 pour que progressivement les choses changent. Et en 1916, la dotation, par l'intermédiaire notamment de Madame Butler, va organiser des ventes de bagues produites par les soldats français au profit des blessés. Et surtout, le principal événement, c'est ce mass meeting qui est organisé au Carnegie Hall en décembre 1916 pour protester contre, en gros, les traitements faits aux populations belges. Hein, et clairement, ce que dit Butler ici, le but qu'il met en valeur, c'est le suivant, dans sa correspondance à Destournel, hein, je cite, « Mon objectif, en diffusant ces informations, juste maintenant, est de montrer clairement à l'Europe qu'il existe d'autres tonalités et d'autres formes dans l'expression du sentiment américain que la vision qui est habituellement présentée. Hein, notamment, il y a beaucoup de débats chez les germano-américains sur la possibilité d'une entrée en guerre. Et c'est intéressant... Oui, j'ai quasiment terminé. C'est intéressant de voir que on est en décembre 1916, le débat sur la guerre à outrance commence à se poser, et ici la dotation Carnegie est en train de rentrer progressivement dans la logique de guerre. Je conclus justement. Vous voyez bien que d'une certaine manière, ces hommes de la dotation Carnegie ont une incapacité réelle à conceptualiser, à organiser l'aide aux civils ou aux prisonniers de guerre. Certes, ils font des visites dans des camps de prisonniers, mais ils ne théorisent pas, d'une certaine manière, même la logique d'un contrôle. Le but, c'est réellement de montrer comment pourraient être respectées des conventions qui ont été violées. Tout simplement, pourquoi ? Parce que le but même de la dotation Carnegie n'est pas de venir en aide, mais de prévenir les guerres. Et dès 1917, je termine sur cette dernière décision qui a lieu au printemps 1917 de la dotation Carnegie, dès 1917, ils vont à nouveau se mettre en marche, d'une certaine manière, pour développer, pour diffuser les idéaux du droit international, la prévention des conflits, avec un projet immense de création de bibliothèques dans toute l'Europe, pour justement éduquer à la paix. Et d'une certaine manière, ils n'arrivent pas à penser l'aide humanitaire, mais ils cherchent encore à nouveau à prévenir les conflits qui pourraient arriver, et de ce fait-là, préparent déjà l'après-guerre. Je vous remercie.